ma communication se propose de réfléchir à la notion d'imaginaire social et en particulier à un imaginaire social singulier, celui de la dernière demeure, à partir d'une légende que je vais résumer brièvement et dont on peut voir une des formulations à travers, par exemple, ces articles de presse. Hein, donc, c'est toujours un peu la même histoire. Il y a 5 ans, donc dans un temps indéterminé et en même temps qu'il inscrit dans une forme d'actualité, une princesse russe est morte à Paris en léguant toute sa fortune, 1 million de dollars, 5 millions de francs ou d'autres sommes toujours faramineuses, à celui ou celle qui garderait son cercueil de verre pendant 365 jours et 366 nuits. Bon. Cet énoncé était bien sûr un canular, mais ce n'est pas le plus important. Ce qui fait tout l'intérêt de cette histoire-ci, c'est que c'est l'une des toutes premières légendes contemporaines, légendes urbaines, identifiées comme telles par les folkloristes et les proto-ethnologues de la fin du XIXe siècle, et au moment où se restructure ce champ d'études. On peut ajouter que cette légende est toujours considérée aujourd'hui par les sociologues et les spécialistes qui s'intéressent aux légendes urbaines, en particulier en France, comme une origine et comme un tournant dans la compréhension de nouvelles légendes pouvaient surgir au creux du contemporain. C'est pas tout. Si nous connaissons cette légende, c'est parce qu'elle a circulé d'abord très très largement dans la presse. Vous en avez ici simplement 2 extraits découpés par des gens qui les ont envoyés dans des courriers, dont je vais parler juste après. Ces articles de presse, pardon, ont circulé très largement. Là, c'est simplement une circulation parmi d'autres aux États-Unis. Ça a circulé aussi très largement au Canada. En Europe, j'y reviendrai, en plus d'avoir essaimé dans la majeure partie du monde occidental, elle a aussi laissé des traces étonnantes de celles qui font le prix aussi des recherches en archives quand on est historien, des traces étonnantes dans les archives départementales. En effet, les archives de Paris conservent encore une collection de 63 lettres postées des 4 coins du monde ou presque et qui portent des actes de candidature, des demandes de renseignements sur le poste de gardien de cercueil de verre à Paris. Ces 63 lettres ne sont que la partie émergée, hein, ne sont que ce qui subsiste d'un envoi de courrier beaucoup plus massif et qui a nécessité la mise en place d'une procédure de conservation qui me semble tout à fait exceptionnelle de la part du bureau des inhumations du Père Lachaise. Alors, pour donner une petite idée de la mesure, hein, voici quelques-unes de ces lettres où vous voyez, hein, pour donner une petite idée de la mesure du phénomène, disons que le bureau des inhumations du Père Lachaise a conservé des lettres, des articles découpés dans la presse et joints à ces lettres, la plupart du temps agrafés, ainsi que quelques enveloppes, des cartes de visite pour certains, et puis la plupart du temps la traduction de ces lettres par l'institution. Ces courriers ont en plus ce caractère impressionnant de s'égrener de 1893 à 1937. Donc on a une légende qui a fonctionné sur la longue durée, même si l'essentiel des courriers concernés véritablement s'intéresse surtout aux premières années de diffusion de cette légende. C'est aussi une légende qui a suscité des courriers de provenance très diverses, hein, essentiellement donc des États-Unis, mais aussi donc des courriers d'Europe occidentale, d'Afrique du Nord et puis donc d'Amérique du Nord de manière plus large. Et puis je dirais que c'est probablement un des critères de sélection et de tri de ces courriers. Les courriers que nous possédons encore sont des courriers lointains, la majeure partie en langue étrangère. Alors, pourquoi considérer cette légende, forgée à la fin du XIXe siècle, comme une des productions de l'imaginaire social? Et qu'est-ce que cette légende dit sur le fonctionnement de l'imaginaire social? C'est là où j'en viens à la façon dont, finalement, j'essaye de comprendre cette légende par rapport au colloque. Je vais commencer par ce qui est le plus évident. On peut dire que cette légende est une production de l'imagination, ce qui est finalement la définition minimale de l'imaginaire. On peut ici ajouter qu'il s'agit d'un canular, ce qu'on appellerait aujourd'hui une fake news, avec une actualité intéressante. À l'époque, on parlait plutôt de hoax, c'est le terme plus adapté, ce qui ne signifie évidemment pas que je considère que l'imaginaire social ou que la production imaginaire soit forcément de l'ordre du faux ou d'un rapport tronqué à la vérité. Cette production n'a pas d'auteur clairement identifié, même si un certain nombre de pistes ont été suivies à l'époque, puisqu'il y a eu une enquête sur les conditions d'émergence de cette légende. Et en fait, en l'étudiant de plus près, on se rend compte qu'elle a été en permanence reconfigurée, réagencée, ce qui fait qu'aujourd'hui, on peut véritablement dire que c'est une œuvre collective, et en même temps, individuellement réappropriée, refaçonnée, etc. Donc c'est une légende qui a très largement circulé dans la presse à partir de 1893, mais jusque dans l'entre-deux-guerres. Aujourd'hui, elle existe encore sous de nouvelles formes sur Internet. On peut dire que c'est un texte viral, en reprenant une des notions utilisées notamment par Ryan Cordell de viral text. C'est donc une légende produite et coproduite par un imaginaire collectif de plusieurs co-auteurs, ce que Ryan Cordell propose d'appeler des auteurs en réseau, network authors. Et donc, en ce sens, on peut dire que cette légende appartient à un imaginaire social au sens d'un imaginaire collectif, mais je ne voudrais pas non plus réduire la notion d'imaginaire social à celle d'un imaginaire partagé, par une collectivité dont les limites, évidemment, sont difficiles à connaître. Alors, moi, ce qui m'intéresse plus, c'est que la notion d'imaginaire social implique que celui-ci joue un rôle majeur dans l'attribution du sens qu'une société donne à ce qu'il agit. Et donc, moi, ce qui m'intéresse dans l'imaginaire social, c'est de me dire que cet imaginaire social, c'est l'ensemble des grilles de lecture dont se dote une société pour comprendre le monde qui l'entoure et pour lui donner un sens. Ces grilles de lecture, ce sont à la fois des contenus, donc des opinions, des croyances, des préjugés, des règles, mais aussi des manières de faire, des manières de voir, qui sont réglées et normées à une époque donnée. Et donc, cet imaginaire social, je l'utilise pour permettre de penser l'avènement de nouveaux possibles, de nouveaux pensables. En essayant d'utiliser un peu, mais j'ai des difficultés aussi, ce que propose Cornelius Castoriadis, la force instituante, et puis Paul Ricoeur, force productrice avec le débat. Bon, bref, je ne rentre pas dans un débat qui m'échappe, en partie. Pas complètement, mais tout de même, pas jusqu'au bout. Alors, si je garde une définition de l'imaginaire social comme d'une fenêtre, c'est là où ça aurait été bien, voilà. Une fenêtre permettant d'accéder à l'univers du pensable ou du possible à une époque donnée, je vais disposer finalement d'une notion qui me permet d'étudier autrement la légende du cercueil de verre sans me limiter à en faire un objet d'étude pour linguistes, pour sociologues des rumeurs ou des légendes urbaines ou pour spécialistes de la viralité. C'est-à-dire que je vais pouvoir prendre au sérieux les courriers qui composent le dossier du Père Lachaise sur la légende et les lire comme des actes d'écriture, comme des engagements, véritablement. Engagements à la fois fantasmés, imaginaires, mais bien réels, qui signent une adhésion au moins minimale au contenu de celle-ci. Certaines personnes, entre 1893 et 1937, ont jugé crédible, ont jugé plausible l'existence réelle d'un tel testament, de telles clauses, et la possibilité qu'une très riche et excentrique princesse puisse dicter de telles conditions ne leur a pas paru improbable. Probablement d'ailleurs, venait-elle confirmer ce qu'ils pensaient déjà d'une aristocratie étrangère, forcément donc décadente et excentrique, forcément si c'était en Europe de l'Est, dans ce 19e siècle finissant. Dès lors, cela signifie que cette histoire bizarre, qu'ils ont pu percevoir comme étrange ou dérangeante, a réussi à entrer en résonance avec ce que j'appelle leur imaginaire de la princesse russe, mais aussi leur imaginaire de la dernière demeure, imaginaire à la fois individuel et social. Et j'entends par cette dernière expression la façon dont des individus au sein d'une société conçoivent et se représentent à l'avance, voire prévisualisent de manière fantasmatique la localisation et la forme que pourrait prendre le dernier habitat de leur corps ou de celui de leurs proches après la mort. Cet imaginaire dépend bien sûr en partie des croyances spirituelles et ou religieuses de chacun, mais aussi des conceptions socialement partagées sur ce que l'on peut appeler l'au-delà à l'époque contemporaine. Ça dépend aussi des systèmes funéraires existants, ce qui est admis, ce qui est légal, ce qu'une société autorise par la loi en ce qui concerne la gestion des sépultures. Ça dépend aussi de pulsions plus intimes et personnelles, de rêves profonds qui parfois excèdent ce que prévoient les grands systèmes de représentation communs et qui sont de puissants moteurs de l'action. On pourrait ajouter que cet imaginaire dépend aussi de la hiérarchie des sens au sein d'un système sensible, hiérarchie qui, à la fin du 19e siècle, donne encore largement le primat à la vue. Or, le cercueil de verre donne évidemment une mise en scène, une théâtralisation du corps mort. Alors, en histoire contemporaine, il me semble que la notion d'imaginaire social est utile à plus d'un titre. D'abord parce qu'elle permet de prendre en compte la force sociale et le moteur puissant de l'action que représente l'imaginaire dans les sociétés humaines, y compris dans les civilisations dites avancées, censées être plus rationnelles, plus en autocontrôle. Et donc, il me semble que ça a un sens, surtout en histoire contemporaine. Je ne sais pas si c'est utilisé de manière aussi vive et aussi puissante à d'autres époques, même si évidemment les médiévistes ont utilisé cette notion. Ça permet aussi de prendre en considération des motifs, des thèmes, des figures qui peuvent paraître insolites, mineures, fantasmées, délirants ou tout simplement décalées par rapport à ce qu'on appelle la réalité, mais qui me semble être à chaque fois révélatrice de manière de voir, de manière de classer, de manière de penser dans une société donnée. Et en ce sens, je pense qu'il n'y a pas d'expérience humaine possible sans imaginaire social pour donner un sens, pour donner une lecture, fût-elle fausse, à cette expérience. Alors, ici, je propose de concevoir la légende du cercueil de verre comme un des motifs qui vient enrichir, rencontrer, peut-être contrarier l'imaginaire de la dernière demeure, et comme un objet d'étude qui est suffisamment circonscrit pour pouvoir faire l'objet d'une étude précise de ses modalités de formation et de réception. Alors, deuxième point, c'est donc quel lien entretient cette légende avec l'imaginaire de la dernière demeure. Ce qu'il y a d'intéressant avec la légende du cercueil de verre, c'est qu'elle vient interroger, voire inquiéter les préconceptions, ou l'absence de préconception de ce qui doit advenir du corps après la mort dans les sociétés occidentales à partir de la fin du 19e siècle. Cette légende donne à lire, dans la presse en particulier, donc le testament excentrique d'une princesse russe et ses dispositions concernant son cadavre. Ces dispositions, on peut les reconstituer, entre guillemets, sont donc de quatre. La première, c'est vouloir être inhumée dans un cercueil de verre, soit un cercueil inhabituel qui peut paraître hors norme, mais hors norme aux yeux de qui ? Le deuxième, c'est que ce cercueil soit disposé dans la crypte d'une chapelle funéraire assez grande pour pouvoir être surveillé par un gardien habitant à l'intérieur de la chapelle. Troisième, c'est que cette dernière demeure s'est située au cimetière du Père Lachaise, qui est un cimetière qui fait halluciner depuis très longtemps, depuis le premier tiers du 19e siècle. Et puis, la dernière, c'est que la garde de son cadavre soit personnelle et rapprochée pendant un an. Donc, la légende nous fait pénétrer dans un imaginaire fictif de la dernière demeure. Et elle propose de voir comme aurait pu le faire une chimérique princesse russe. Des indices peuvent faire comprendre que ce récit est incohérent, mais tout se joue au niveau de son interprétation. Or, c'est un contrat de lecture flou qui est en partie responsable de la mauvaise interprétation d'une partie du lectorat, qui a eu tout simplement envie de croire à une telle histoire. Et cette histoire n'est pas venue perturber les stéréotypes que ces lecteurs avaient sur l'aristocratie russe, par exemple, et la manière dont ils l'apercevaient à la fin du siècle. Et là, une citation de Paul Ricoeur qui m'a semblé entrer vraiment en collision avec ce sur quoi je travaillais. Paul Ricoeur, dans Histoire et Vérité, disait « Peut-être quelques perles d'espérance sont-elles égarées dans la paille des faux espoirs ?» On est ici dans « C'est peut-être faux, mais on aimerait tellement que ce soit vrai. » dès lors, avec ces lettres, on peut trouver trois niveaux de production de l'imagination que distingue Paul Ricoeur et qui sont à l'interface entre le monde tel qu'il est et le monde tel que les sujets voudraient le voir. Et j'ai essayé d'utiliser un petit peu ces critères pour voir ce qu'on pouvait éventuellement en faire. Alors, le premier critère, c'est de dire que la fonction de l'imagination, c'est de permettre l'anticipation. Et ici, effectivement, on voit dans les courriers une espèce d'imaginaire de l'anticipation, un imaginaire qui schématise les moyens à mettre en œuvre afin de parvenir aux fins des lecteurs et qui peut se deviner à travers un certain nombre de procédures mises en place pour être choisi pour garder le tombeau de la princesse. Alors je vais donner des exemples. Voici par exemple un premier courrier donc de Amos Russell Taylor qui est originaire de Tomahawk dans l'Arkansas aux États-Unis et qui écrit un courrier au maire de Paris et dans lequel il lui demande, c'est à la toute fin simplement du texte, de lui donner tous les renseignements dont vous pensez que j'aurais besoin de connaître afin de tenter l'aventure. Envoyez-moi tous les renseignements qui me seront nécessaires sur la ville afin que je puisse trouver votre adresse, un endroit convenable pour y descendre, les prix, etc. et tout ce qu'il me faudra débourser pour arriver là-bas. Et post-scriptum, vous voyez tout à la fin, veuillez écrire votre réponse en anglais car je ne sais pas lire le français. Donc on a ici un imaginaire individuel mais aussi social puisqu'il prend en considération un certain nombre de contraintes économiques et sociales qui lui donnent une forme particulière. C'est un imaginaire contraint par les différences de langue, contraint par des considérations très pratiques qui l'obsèdent, le coût des transports par exemple. Autre exemple de cet imaginaire d'anticipation, c'est un autre courrier, cette fois-ci de John Corscott, qui écrit de Madison dans le Wisconsin à la fin du mois de novembre 1893. La fin du texte ici. Voudrez-vous avoir la bonté de me faire connaître ce qu'il y a de vrai dans cet avis? On commence par ça. Quelles sont les conditions, si le fait est exact, les dimensions de la chapelle? L'expérience tentée par ceux qui y ont veillé jusqu'ici, avec une copie de l'article du testament où sont mentionnées les dispositions et tous les autres détails que vous pourrez me donner. Si vos réponses sont satisfaisantes, vous aurez, selon toute probabilité, et même avant longtemps, un Américain prêt à conquérir l'argent. Donc, ici, on n'est pas dans un imaginaire débridé, on est au contraire un imaginaire qui prend en considération toute une série de paramètres très concrets qui peuvent servir de déploiement à une autre fonction de l'imagination, l'imagination de motivation. Donc qui va permettre de mettre en balance les raisons de croire ou de ne pas croire à cette histoire, de s'engager ou non dans cette histoire, et pour certaines raisons. Alors, les courriers qui donnent des exemples très clairs sont peu nombreux, mais il y en a certains qui sont assez fascinants. Voici par exemple un Canadien fraîche date, Daniel McLaren, qui vient d'Écosse et qui écrit depuis Hamilton dans l'Ontario à la fin du mois de novembre 1893. Messieurs, au cas où ce que dit l'annonce en question serait exact, on retrouve les mêmes modalisations, les mêmes doutes sur la véracité de l'histoire, je désire me poser comme candidat pour satisfaire, s'il se peut, aux vœux de son Altesse royale, la princesse. Celui qui vous écrit est par sa naissance et par ses ancêtres un Écossais des Highlands, mais il habite le Canada depuis un petit nombre d'années. Ayant été élevé et instruit d'après toutes les traditions et les préjugés de mon père, je désire éprouver la force de mes facultés mentales et de mes nerfs en essayant de gagner le legs de la princesse. Donc, on retrouve dans le courrier le doute inaugural sur la possibilité réelle d'une telle aubaine. Une mise en scène de soi en pro-chevalier, en valeureux Highlander, dont les motivations exhibées sont à la fois économiques, je veux gagner le legs, et aussi plus intimes. Il y a une épreuve vis-à-vis du courage, un test de la filiation auquel il aspire, visiblement. Alors, on est bien évidemment ici dans la construction d'une identité sociale acceptable et valorisante, mais aussi dans une forme de curriculum vitae, comme si donc on était dans une lettre de candidature à un job qui est classique. Un autre courrier, plus étonnant, griffonné au crayon à papier sur les pages épaisses d'un petit carnet qui ont été découpées au ciseau, mais un peu de travers. Il n'écrit pas dans le sens des lignes. Bon, il ne fait pas sa lettre comme les autres. Et pourtant, il se présente comme un instituteur, un certain Jesse Lee de Chicago, dans l'Illinois. Son texte est très long. « Maintenant, messieurs, je suis un homme pauvre et sans moyens pour voyager. J'ai longuement pensé à cette affaire et je me rends parfaitement compte de la gravité d'une telle entreprise. Toutefois, j'ai l'intime confiance de pouvoir terminer l'aventure avec succès, attendu que par principe et en raison de mes études, je suis un sceptique et ne crains point les morts, les fantômes, les diablotins, les esprits, etc. » Assuré qu'une récompense aussi considérable que celle d'un million de dollars sera un encouragement assez pressant pour faire taire des dégoûts qui seront le résultat d'une nécessaire réclusion, je vous ferai l'offre suivante. Si je réussis, je donnerai la moitié de la récompense pour être employé à telle œuvre charitable que précisera votre corporation. Je voudrais tenter cette expérience comme une expérience scientifique et je prendrai des notes quotidiennes sur l'état de mes nerfs par suite d'une semblable réclusion. Et je les publierai ensuite au profit du monde de la science. Messieurs, je vous fais cette proposition, on ne peut plus sérieusement, et si vous acceptez, je désire que le public soit informé de la chose. Sans doute, votre corporation recevra de la part des Américains de nombreuses propositions au sujet de cette entreprise. J'espère toutefois que mon offre sera reçue par vous assez favorablement pour que vous l'acceptiez. J'attendrai votre réponse. J'ajoute qu'il me faudra qu'on m'avance l'argent pour mon voyage à Paris, ainsi que pour ma subsistance pendant l'année. Donc là, ici, on est dans un mélange de ces différents types d'imagination, exhibition des motivations les plus socialement acceptables et valorisées, notamment une charité chargée de contrebalancer l'idée que l'auteur pourrait être perçu comme simplement intéressé par l'argent, ce qui visiblement lui semble indigne. Présence en fin de texte de réflexion qui atteste d'une véritable anticipation des événements et même d'une projection dans sa réussite complète. Et donc ici, il me semble que ça montre à quel point l'imagination et ses productions, donc les imaginaires, sont producteurs, engagent dans l'action et la rendent possible. Et ça me permet d'en venir à une troisième et dernière fonction de l'imagination, l'imagination de projection, qui contribue à rendre possible, pensable et pertinent ce qui aurait pu paraître incongru. Donc, en quelque sorte, cette fonction permet de jouir à l'avance d'une partition ou d'un rôle qu'on a déjà prévu en détail. Et ici, je voudrais donner un exemple, l'exemple fascinant d'une femme de lettres canadienne, une des pionnières de la littérature canadienne, veuve de député, Maria Elise Lauder, qui d'ailleurs met sa carte de visite ici. Elle écrit dans sa lettre de candidature postée de Toronto à la fin de novembre 1893, l'extrait suivant, « Je réclame aussi de la chaleur et une lumière constante durant la nuit, beaucoup de plumes, d'encre, de papier, le tout dans la meilleure qualité et un matériel de lecture de premier choix. » Je suis bien aise qu'on permette des livres, des journaux, les revues. Le papier, les plumes, l'encre me serviront à tenir un journal quotidien. Sans aucun doute, Il me viendra de belles et multiples pensées, des visions, des rêves. Je le naîtrai tous pour que le monde puisse en jouir. Naturellement, je n'aurai pas de dépenses à faire. La bonne princesse russe a voulu faire du bien. Naturellement aussi, la chapelle n'est pas souterraine, mais elle doit être obscure. Je demanderai de beaux et chauds tapis, etc. Je demanderai de la lumière, toute une série d'aménagements. Alors, remarquons, fait intéressant, qu'elle n'emploie même pas le conditionnel, mais le futur, indice d'une projection très forte vers un avenir qui lui semble résolument à sa portée. Donc, pour tous ceux qui ont écrit à la conservation du père Lachaise, le passage dans la mystérieuse chapelle funéraire de la princesse russe n'est qu'une étape transitoire. Elle ne peut pas être leur dernière demeure. Elle est la dernière demeure fictive de cette princesse. Évidemment, cette dernière demeure, au sens que nous avons défini, ne peut pas être objet d'expérience. Et elle ne peut qu'être anticipée et projetée. Toutefois, l'imaginaire possède la capacité de rendre possible et pensable ce dont nous ne pouvons pas avoir forcément l'expérience. Et elle donne véritablement la capacité d'halluciner. Il est intéressant de voir que tous ceux qui ont diffusé la légende, qui ont contribué à la produire, tous ceux qui y ont cru à des degrés divers, semblaient partager quelques représentations communes. La sacralité du testament, le fait de ne pas considérer le corps mort comme un simple déchet, la tolérance vis-à-vis des désirs les plus fous en matière de sépulture. La mort est une affaire sérieuse, le monde des morts est pensé par analogie avec le monde des vivants, la somptueuse chapelle funéraire de la princesse peut ressembler au sublime palais qu'on pouvait lui prêter de son vivant, le cercueil de verre ou de cristal peut rappeler le monde des bijoux et des objets précieux et raffinés qui l'entouraient et en faisaient une princesse. Se faire garder pendant sa mort n'était que la continuité d'une vie passée entourée de domestiques. Le monde des morts est ainsi pensé dans la continuité de celui des vivants, comme si rien ne changeait vraiment. La volonté des puissants demeure et s'exerce toujours, par-delà la tombe, même des années après. Les inégalités sociales s'y donnent toujours à lire, l'orgueil et la vanité aussi. C'est d'ailleurs la question de la vie des morts que soulève l'étrange histoire du cercueil de verre, et même de leur vie enfermée à triple tour, dans un cercueil, inhumée dans la crypte d'une chapelle, elle-même localisée dans l'une des divisions du cimetière du Père Lachaise, qui est ce cimetière lui-même une ville des morts dans la ville des vivants. On est ici dans une légende qui vient s'adossier à ce curieux culte de conservation perpétuelle que Jean-Didier Urbain avait relevé et qu'il appelait le culte des morts toujours là, avec la naissance du cimetière contemporain et la naissance du culte des morts. Alors, quel peut bien être le sens d'un imaginaire social et l'un de ses motifs ? Je vais terminer par ici, par cette question. Il me semble qu'ici, la légende n'est qu'un motif de l'imaginaire de la dernière demeure, qui lui-même n'est qu'une des manières, une des modalités, une des formes que peut prendre l'imaginaire social. Ce dernier pour objectif de, me semble-t-il, de construire une géographie, une gestion très claire et rassurante du monde physique des morts à l'heure de la généralisation des cimetières modernes et du culte des morts. Il s'adosse à la conception d'une belle mort apaisée, conçue comme un sommeil sans fin dans un champ de repos, et à un désir de conservation infinie des corps qui doivent toujours être là et si possible intacts. Mais cet imaginaire est également apparu au moment où au Père Lachaise commencent les premières crémations, librement consenties, et alors qu'un autre imaginaire crématiste propose une lecture radicalement différente de cette géographie de la mort et de la gestion des corps. Et puis, même si je n'en ai pas parlé, il n'est pas non plus sans lien avec le contexte international, l'état des relations franco-russes à partir de 1893, dont il peut proposer une représentation déplacée et métaphorique. Et, dernier point, il n'est pas non plus sans lien avec un autre imaginaire dont je n'ai pas parlé, mais qui est très actif, en particulier, me semble-t-il, en Amérique du Nord, c'est l'imaginaire du trésor caché et des merveilles, des aubaines que l'on peut éventuellement retirer. Voilà, donc je vous remercie de votre attention.